Processus, le podcast avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.
Trust the process. Saison 2, épisode 24, le nombre de Coupes Stanley du Canadien.
Pour l'instant.
Simon Snake Boisvert, habillé tout de vert, vêtu, sans les écailles. Pierre-Alexandre Girard, qui cette semaine a décidé de ne pas prendre de chance avec les couleurs.
50 nuances de gris pour les gars de Processus, on fait n'importe quoi. J'aimerais vous dire que Processus est présenté par Carlsberg, la bière officielle des fans de la LHGMQ et probablement la meilleure bière au monde. Aussi vous dire que Bet99 présente Processus, tous les matchs commencent sur bet99.net. Que vous soyez fan de hockey, basket, MMA ou autre, bet99.net a quelque chose pour tout le monde. Vous dire aussi que les équipements de la commission athlétique sont fournis par Best Buy.
Simon Boisvert, j'ai une grosse mission pour toi. Pag, écoute ça. Pag, en passant, n'est jamais au courant de nos sujets parce que je le veux, je veux le prendre...
Spontanément.
Ouais. Simon, j'aimerais ça que tu sois directeur général du Canadien là, avec la situation actuelle. On le sait que tu es un gars de reconstruction, mais là, le Canadien, en ce moment, s'apprête à affronter les Sabres de Buffalo au moment où on enregistre. Et pas très loin d'une place en série. Et à cette étape-ci de son processus de reconstruction, Kirby Dach, dont tu n'étais pas le plus grand fan, vient de tomber au combat pour l'année. Toi, là, Simon Boisvert, là, tu fais quoi pour le court, moyen et long terme, compte tenu du fait que Nick Suzuki, en ce moment, est le premier centre du Canadien, qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec Dach et ce qu'il nous a montré n'a pas été convaincant. Le plan de Simon Boisvert, s'il vous plaît.
Ben là, pour la saison prochaine, on parle évidemment du deuxième trio, ce que tu me dis. Parce que Jake Evans, ça se peut qu'il s'en aille.
Ben, de toute façon, Jake Evans
ça ne sera pas un joueur de deuxième trio.
Non.
Puis ça ne sera pas Owen Beck non plus.
C'est toi le boss, hein? C'est pas à toi de me le demander, là.
Bon. Non, mais je fais une petite mise en situation. Kirby Dach, pour moi, c'est pas un centre de deuxième trio à long terme pour le Canadien. Alors, blessé ou non, pour moi, il n'était pas dans l'équation.
Parfait. C'est réglé.
Alors, là, pour le deuxième trio, comment est-ce qu'on fait ça?
Parce que toi, tu veux quand même progresser un peu, là.
Oui, c'est ça. Mais là, regarde, il y a toutes sortes d'options qui s'offrent.
Ouais.
Puis là, il s'agit de voir les pour et les contre de chaque option. La première option, ça serait de dire, mettons, puis ça, c'est très, très... je pense que c'est irréaliste, là. Ça serait de signer Michael Hage, puis de le mettre sur le deuxième trio l'année prochaine. La réponse est non. Si tu signes Michael Hage, tu le commences sur un troisième trio ou tu le commences à Laval. Sinon, tu le laisses continuer une autre année au Michigan et l'année d'après, il est prêt, puis là, tu l'embarques.
Écoute, c'est pas Pag, puis c'est pas moi le directeur général, là. Tu fais quoi avec Michael Hage?
Michael Hage, l'année prochaine?
Toi, le boss.
Idéalement, là... Oui, mais lui aussi, Michael Hage, il est un peu boss de sa vie. Bon. Idéalement, Michael Hage, je l'amène à Laval.
Ah oui? OK.
Ça, c'est dans le... Oui, parce que moi, plus vite tu t'en viens dans la Ligue américaine, mieux c'est.
OK.
Mais rester une autre année à Michigan, pour moi, c'est pas un problème. Tu sais, c'est un bon calibre de jeu. Ça lui donne une année de plus pour prendre confiance en lui puis travailler certaines choses. Un peu comme Lane Hudson, Cole Caulfield l'ont fait à l'université. Ouais. Bon, Will Smith, on l'a vu, il est arrivé à 19 cette année à San Jose. Première moitié de saison extrêmement difficile, mais là, il décolle. Parenthèse, je l'ai vu en personne les deux derniers matchs contre Montréal-Ottawa et Smith est vraiment sur la bonne voie. Mais tout ça pour dire qu'un joueur de 19 ans, puis je ne pense pas que Michael Hage soit aussi talentueux que Will Smith, c'est bien correct de le laisser à l'université.
Donc, tu fais quoi?
Ah, écoute, je le laisse à Michigan.
Oui, tu sais pourquoi aussi?
Oui.
Parce que si, disons que tu le signes puis tu dis « je vais l'envoyer à Laval
ouais. »,
il arrive en match préparatoire, il fait bien,
ouais.
La foule s'enflamme.
Ouais.
Là, t'es un peu coincé ouais, comme avec Scott Kanyemi.
Tu peux peut-être le mettre sur un troisième trio.
Mais bon. C'est pas ça que tu voulais au départ.
Non.
OK.
Alors, on va dire qu'on l'envoie à Michigan. Là, on joue ça
on laisse
conservateur.
À Michigan. Oui, oui, ouais. Parfait.
Ensuite, la deuxième possibilité. c'est de laisser couler la patente. Puis là, signer n'importe qui pour boucher des trous. Puis ça, je te dis, ça, je le ferai pas, mais je donne les options. Autrement dit, tu arrives le 1er juillet, puis tu signes à peu près n'importe qui, puis tu dis, ben tu re-signes Dvorak, quelque chose comme ça. Ou tu
t'as DAC qui revient aussi, là.
T'as DAC qui revient. Tu sais, c'est...
Statu quo.
Ouais, statu quo. Fait que tu laisses couler la patente.
Puis tu dis... Non, mais tu dis peut-être ouais, que DAC...
Je trouve pas
que
c'est une bonne idée.
OK.
Pas une bonne idée.
Bon.
J'ai rien contre le fait d'avoir un autre choix de repêchage intéressant, mais à un moment donné, faut
que tu progresses.
Faut au moins que tu essayes de progresser sans mettre ton avenir en jeu.
Bon.
Bon. Alors, le statu quo, pour moi, pas une option. Alors là, comment tu comptes ton poste de deuxième centre? Il y a deux façons. Un échange. Un joueur autonome.
OK.
Je vais commencer par l'échange. L'échange, évidemment, c'est pas toi qui as le contrôle. À 100%.
Un joueur autonome non plus.
Non, mais encore moins un échange parce que tu deals avec un autre directeur agent, puis faut que tu donnes quelque chose en retour. Est-ce que moi, je ciblerais un gars comme Dylan Cousins? La réponse est oui, oui, puis encore oui. Oui,
hein. Puis tu vois, écoute, c'est drôle parce que Martin Biron, tantôt,
ouais, qui suit les sables beaucoup.
Puis qui suit les sables. Ce qu'il disait en onde avec Martin Lemieux au retour, c'est qu'il n'aime pas le sens du jeu de Cousins. Il dit, travaille, c'est un bon gars, il met l'effort, mais il n'a pas une bonne compréhension du jeu. Puis pour moi, sa saison de 68 points, c'était une anomalie.
Okay.
Ça va être un gars de 50 points dans la Ligue nationale. Fais juste te dire qu'est-ce qu'un gars comme Biron...
Mais moi, j'irais quand même le chercher parce que quitte à ce qu'il devienne ton gars de troisième trio un jour.
À 8 millions?
À 7.
À 7,
oui. Oui, mais
okay.
À un moment donné, tu sais... Mané, n'oublie pas, là, c'est pas non plus des contrats de 8 ans à un joueur de 29 ans. Après cette saison-ci, il va y rester quoi, 4-5 ans de contrat?
Fait que donc, pour toi, il est largement supérieur à Dark.
Oui.
Et à New York.
Ben oui. Ouais, New York, c'est un allié de troisième trio.
Oui, mais New York, garde, là, dans son rôle, là, quand il a 9 points à ses 10 derniers matchs, il va bien dans son rôle.
Oui, dans son rôle.
Ouais. Donc, tu cibles
Cousins. Ben là, après ça, il faut voir un petit peu qui est disponible. Moi, j'ai ciblé vraiment Cousins comme exemple parce que le but, c'est plus d'essayer de trouver un prototype que je chercherais que de faire une nomenclature de nom qui n'est que de la spéculation.
Mais 24 et moins.
Les spéculations d'échange, moi, je ne suis pas fort là-dessus.
24 et moins.
Oui, des gars préférablement, pas nécessairement sous contrat, mais des gars sur qui tu as plusieurs années de contrôle encore.
Qu'est-ce que tu offres?
Ah, ça, c'est toujours la bonne question. Le Canadien, c'est sûr, dans l'équipe actuelle, c'est difficile d'offrir quelque chose qui, d'après moi, n'affaiblirait pas le Canadien tout en faisant plaisir à l'autre équipe.
Okay.
Tu sais, tu peux pas arriver et dire... je vais offrir Slafkovski, ça n'a pas de sens.
Non.
Tu comprends? Tu peux pas dire je vais offrir Patrick Laine.
Ben, Buffalo, on va.
Ben, c'est ça, exactement. Non, alors, faudrait aller peut-être vers des espoirs. Est-ce qu'un Logan Mailloux pourrait les intéresser, entre autres?
Avec le choix de premier tour de Calgary.
Quelque chose de même.
OK.
Exemple. Ouais.
Je suis surpris que tu cibles personne à Anaheim.
Ah, tu veux dire un Mason McTavish ou quelque chose comme ça?
À la limite, tu vas à pêche pour Leo Carson, si ça ne marchera pas.
Ouais, ou un McTavish. Regarde, comme je t'ai dit, Cousins, c'était un exemple. Je pense qu'il y en aurait peut-être d'autres, mais plutôt que de nommer un paquet de noms, je veux m'en tenir au prototype de joueur que je cherche.
Mais là, tu sais, on est dans le bureau. Là. On veut essayer d'avoir quelques noms, des options pour voir si Cousins, ça ne fonctionne pas, là. Fait que là, il y a McTavish.
Bien, c'est sûr, Carlson, j'essaierais, mais Carlson, le prix serait probablement plus élevé. Parce que McTavish, n'oublie pas, McTavish, là, je le suis depuis le début, j'étais pas un fan fini à son repêchage. J'avoue, quand il est sorti troisième, j'avais un petit peu bondi de mon siège. J'avais trouvé ça un petit peu haut. Puis depuis quelques années, j'ai pas vu de courbe de progression, ce gars-là. J'ai toujours vu une régression depuis qu'il est dans la Ligue nationale.
Bien, comme Anaheim, c'est pas mal ça, les jeunes.
Oui, mais là, je questionne un petit peu le système de jeu, le coach, je ne sais pas. Carlson, il progresse pas du tout cette année, malheureusement. Mais c'est sûr que c'est lui que je ciblerais. Mais qu'est-ce qu'Anaheim veut en retour? Ils prendront pas juste Logan Mailloux pour Carlson.
Est-ce que tu donnes les deux choix de premier tour?
Pour Carlson?
Oui.
Ça dépend à quel rang.
Ben si là, c'est, disons si que c'est autour de 11, 12 et 17.
Ah, 12, 17, je le donne. Oui,
ouais, hein, les deux.
Oui, les deux. 12, Tac, 17.
Ça te surprend?
Ben, ça me surprend que même il pourrait considérer ça à Anaheim.
C'est pas suffisant?
Non.
C'est ça.
Imagine.
Ben, c'est un deuxième choix au total, il y a deux ans.
Mais moi, je le fais, c'est sûr. Oui.
OK.
Mais il ne progresse pas.
Mais toi, tu échanges tout le temps des choix anyway contre des joueurs établis.
Mmh.
Oui, c'est ça. Alors, mais il ne progresse pas, sauf que j'ai l'impression, peut-être, c'est le genre de joueur, il est assez jeune pour dire qu'un changement de décor pourrait l'aider. Tu sais, c'est un cliché, ouais. On dit ça à un moment donné. Le gars, il a 25 ans, ça fait 6 ans qu'il ne produit pas, mais on dit, ah, ben un changement de décor pourrait l'aider. Non, à 25 ans, oublie ça.
Ouais.
Mais à 20 ans, 21 ans, surtout quand tu vois qu'Anaheim, tout le monde est dans le même paquet.
Tu penses que McTavish,
tout le monde est dans le McTavish, même paquet
ça vaut pas la peine.
À un coût moindre.
Pas deux choix de premier tour.
Non, 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 jamais, jamais. Parce que McTavish, je pense qu'éventuellement, au sein d'un club champion, c'est un gars de troisième trio.
Fait que t'as pas réglé vraiment ta question de deuxième trio?
Non, mais j'ai acheté du temps avec au moins un jeune joueur qui peut faire partie du noyau futur.
Est-ce qu'un jeune, ben un vétéran de 28-29 ans dans un échange, disons Beau Horvat?
Oui. Non. Contrat trop long. Et là, j'en viens là, tu vois. Là.
Ouais.
Ma troisième option, les joueurs autonomes mais ou lui, les joueurs plus
mais
vieux.
Mais ça, c'est un échange, oui. Le Beau Horvat. Il doit en avoir d'autres oui. Dans la Ligue nationale
comme
ça. Oui,
je sais,
ça,
mais je vais y aller dans le troisième bloc avec les échanges et les joueurs autonomes parce que moi, des gars de 28, 29, 30 ans, je mets ça dans le même paquet. Que ce soit un échange ou un joueur autonome.
Okay. On parle beaucoup de Sam Bennett aussi sur les joueurs autonomes.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Bon, un joueur autonome, quelles sont les options? Tu peux te garocher le 1er juillet, aller chercher la saveur du mois, exemple Sam Bennett, puis dire, on va lui donner 8 ans, 64 millions, parce que c'est une affaire de même qui va aller chercher le gars. La réponse est non, non et non. Le gars est trop vieux. Bon. L'autre option, c'est d'aller chercher un vétéran à court terme,
okay.
Pour maximum 2 ans.
Intéressant.
Mais ça, c'est difficile à obtenir le 1er juillet à midi et demi. Parce que là, les joueurs s'attendent tous à aller chercher le gros lot.
Ouais.
Mais as-tu remarqué, Mathias, à un moment donné, le 2 juillet en après-midi, là, ça s'est calmé, il n'y a plus personne qui signe. Et là, à un moment donné, rendu au 15 juillet, 30 juillet, 5 août, 10 août, il y a des joueurs qui sont encore là. Et qui acceptent un contrat moins.
Oui, mais qui sont...
Oui, mais c'est ça. Mais l'idée, c'est que moi, si j'ai le choix entre aller boucher un trou pas cher, à court terme, avec un contrat moindre, et signer un joueur 5, 6, 7, 8 ans, de 28, 29 ans, en disant, je fais mon lit, puis c'est avec lui.
Ouais.
Tu sais, c'est lui qui va être le deuxième centre du Canadien, et puis que là, tu fermes la porte à Michael Hage pour le devenir, s'il le mérite.
Ouais.
Moi, je trouve que tu te tires dans le pied. Tu peux pas arriver à un Beau Horvat puis dire, Beau Horvat, là, je vais le chercher en transaction, ça va être mon deuxième centre
ouais. Pour
les prochaines années. Parce qu'à un moment donné, quand il va débarquer comme troisième centre, il va être dispendieux, puis il va peut-être être complètement fini. Parce que Beau Horvat, c'est des styles de jeu qui résistent difficilement à l'usure du temps.
Mikael Granlund.
Oui, tu m'amènes sur un bon terrain. Mikael Granlund est le genre de gars qui accepterait un contrat de 2 ans.
Tu penses?
Je présume. Oui, oublie pas, c'est un gars qui a été mis au ballotage.
Oui, mais Chandler Stevenson n'a pas pris 2 ans, lui.
Oui. Je le sais, mais je pense que Granlund, ça va dépendre de sa performance à Dallas. À Dallas, il n'y aura pas la glace qu'il y avait à San Jose.
Ouais.
Il ne faut pas oublier qu'à San Jose, c'est un premier centre par défaut. Ouais. Il est bon, mais c'est un premier centre par défaut. Donc, tu te retrouves, Granlund, si tu prends, mettons, je ne sais pas moi, qui t'a payé un petit peu plus cher pour par année.
Ouais.
Tu sais, un 2 ans, 14 millions.
Je trouve intéressant cette porte-là. Cette avenue-là est intéressante. Je ne te dis pas que... Là, tu as Granlund, est-ce qu'il y en a d'autres? Ou soit des joueurs autonomes ou des gars qui font pas l'affaire.
Oui, bien ça, comme je t'ai dit, tu regardes la liste. Puis il n'y en a pas beaucoup que je ciblerais, à part Granlund, parce que tous ces gars-là vont demander du long terme. Sam Bennett, là, il ne signera pas pour 2 ans.
Non.
Alors, j'en veux pas pour plus. Alors, l'idée, c'est juste de ne pas fermer la porte à 2 choses. La première, que Michael Hage soit de calibre top 6. Hein? Et la deuxième... C'est qu'un des choix au repêchage du Canadien cette année, tout d'un coup, il devient
là,
un top 6.
Là, ça ne coûte pas un choix au repêchage.
Ouais.
Donc, un contre-pont à un vétéran.
Oui, sans et qui fait en sorte que tu maintiens ton équipe à flot dans ta progression.
Ouais.
Un gars comme Granlund, ça serait correct.
Ouais.
Mais sans nécessairement dire, je suis vraiment prêt avec lui, Michael Hage s'en vient ou un autre, mettons que je repêche. Puis là, tu arrives en 2026 ou 2027, mettons, puis tu dis, oh, là, qu'est-ce que je fais? J'ai Sam Bennett de signer pour 8 ans.
Ouais. j'en veux. Regarde, Pag, regarde les équipes un peu. Là. Je veux explorer. Là. Je veux d'autres options parce que là,
toi, tu veux le marché des joueurs autonomes. Là,
non, pas nécessairement, ou un joueur en fin de contrat. Ou là, tu m'allumes.
Oui, oui, un joueur en fin de contrat.
Tu m'allumes, là. Ça, je trouve que c'est une option qui peut être intéressante.
Oui, parce qu'à ce moment-là, tu réponds à un besoin immédiat qui est de pas nécessairement, comme j'ai dit tout à l'heure, le statu quo puis laisser le Canadien couler. Parce qu'en 2025, ça commence à être niaiseux de commencer à continuer de couler. Là. Le Canadien n'est plus au stade de San Jose puis Chicago.
Ouais. Puis on s'entend que, justement, des Elias Pettersson, c'est pas la solution.
Non, pas tu à 11 pas millions tout, pendant 1 an.
Ouais.
Puis parce que tu dois pas fermer la porte à la possibilité qu'un des deux jeunes joueurs, Hage ou un choix de cette année, devienne un top 6. Ouais.
Ryan O'Reilly reste un an après cette année?
Oui, ça peut être une option. Ryan O'Reilly, par exemple, il commence à avoir beaucoup de millage, mais oui, deuxième centre peut-être, mais encore là, très court terme.
Stamkos?
Non.
Trop vieux?
Ben, Stamkos, c'est
sûr que s'ils peuvent l'échanger.
Oui, mais Stamkos, il t'apporte quoi? C'est un one-timer. Okay. Fait que là, t'as Caulfield, t'as Lainé, t'as Stamkos. Qui va one-timer?
Non, j'explore.
Non, je sais.
Comment?
Puis Stamkos, t'oublies pas, il a signé un gros contrat à Nashville.
Il doit 25 ans?
Ouais.
Il reste 4. Non. Il y a certains médias qui ont évoqué le Brock Nelson aussi.
Brock Nelson, là, il signera pas pour un an ou deux. Parce que Brock Nelson, ça va être probablement un des agents libres les plus convoités. Puis d'après moi, il va aller chercher minimum 4 ans, fort possiblement 5.
Comment on fait pour pas rejouer dans le film de Sean Monahan?
C'est-à-dire?
Tu sais... On l'avait, là, ce centre-là. Il était vraiment bon, Sean Monahan, avec nous autres, puis on l'a laissé partir. Si je sais que c'est pas pareil, mais c'est parce que là, on s'apprête à...
Time out. Temps d'arrêt. Dans l'imaginaire collectif sportif québécois, on dit on l'a laissé partir. Mm. On n'en sait rien. Mm. Parce que Sean Monahan voulait d'abord rester à Montréal. Puis je te dis pas que le Canadien voulait le garder à tout prix, je le sais pas. Est-ce que Sean Monahan voulait rester? On n'en sait rien. Ouais. Puis on se dit, on l'a laissé partir.
Oui, les équipes ont le dos large quand un joueur autonome quitte. Tu sais, on est vite à tirer sur la gâchette qu'ils n'ont pas tout fait pour le signer.
Ouais.
Mais souvent, quand tu vois le chiffre et la durée du contrat, tu as ta réponse. Comme d'après moi, on va l'avoir pour Jake Evans.
Mais c'est plus une figure de style. Je suis d'accord avec toi que Monahan...
Puis ça revient à... Il aurait fallu que tu le signes pour 5 ans.
Oui.
Ouais.
27 millions et demi.
Zibanejad, combien d'années de contrat il reste?
Parce que
c'est quelqu'un que tu peux envisager. Ah, ils ne feront pas d'échange avec New York, avec Gorton qui est ici.
Non, mais même si, là, Zibanejad, non. 2028, c'est 4 ans encore. C'est 3 ans après cette année.
C'est juste les gars.
Ah non, excuse. C'est 2030, Zibanejad. Okay. Non, oublie ça.
Tu le fais pas.
C'est 5 ans après cette année.
Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est juste, on revient un peu dans le temps. Là. On
a je pense que je sais ce que tu veux dire.
Philippe Dano. Ouais. On a laissé partir KK, on a laissé partir Sean Monahan, puis là, on s'apprête à laisser partir Jake Evans.
Mais Dano, c'est une erreur de l'ancienne administration. Okay? On ne peut pas la mettre dans cette équation-là. C'est pas pareil. C'est Marc Bergevin et compagnie qui ont décidé de ne pas le garder. Il y avait peut-être des frictions dans les négos.
Oui, puis Pac, Sean Monahan, à la base, il n'a pas été acquis pour le long terme. Il a été acquis pour aller chercher un premier choix en allant chercher le contrat. Puis là, il se blesse. Fait qu'au lieu de l'échanger, il le signe pour un an à rabais, il devient bon, puis il rapporte un autre premier choix.
Ouais.
Sean Monahan, je pense qu'il a toujours été considéré comme un actif plutôt qu'une pierre, une pierre avec une brique avec laquelle tu bâtis.
Puis l'autre affaire, là, tu viens de me dire pourquoi on n'a pas gardé Sean Monahan? Ça a rapporté quoi, Sean Monahan?
Je sais que c'est cool. Là, deux choix de première ronde, c'est
malade. Oui, mais non, je veux des noms.
Excuse-moi, je peux pas répondre comme ça, là, vite de même.
Michael Hage.
Ouais.
Puis l'autre, on le sait pas.
Ça va être
mais de laisser partir mon âme, comme on dit, ça te donne Michael Hage pareil, là.
Ouais. Tout à fait.
Ouais.
Tu sais?
Ouais. Puis ceux qui évoquent Kapanen dans l'équation, est-ce qu'ils ont raison ou tort?
Oliver?
Ouais.
Pour quel trio?
Ben, mettons 3. Fait que là,
aïe, aïe.
3 ou 4. Fait que là, Bebek, Vigneault.
C'est même pas un gars de 4.
Mais je pense que là, si tu aspires à faire les séries l'an prochain, là, ça te prend quelque chose de plus solide.
Bebek, Newhook, Kapanen, là, oh là là, là t'as une ligne du centre la plus faible de la ligue.
Mais c'est juste que pour en revenir, mettons, à ce que vous dites souvent, puis avec raison, c'est qu'il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller l'autre.
Est-ce qu'il y a un autre? Qui serait le prochain Pierre-Luc Dubois, là? Y en a-tu un?
Ben, pas au centre, là, mais Lafrenière.
Ouais, mais au centre, là.
Moi, c'est Cousins. Je suis sticky sur okay. Dylan Cousins.
OK.
C'est pas une aberration, M. Biron, les 68 points. Mais je comprends qu'il y a un peu des ailleurs, Cousins. Je suis d'accord.
Écoute, on va conclure
ça. Je suis pas complètement désaccord avec Martin Biron.
On va conclure ça avec une question qui tue.
Oui.
Granlund, 2 ans.
Oui.
Ou Cousins pour un choix de premier tour et un espoir?
Ah, Granlund, 2 ans.
Bon.
Mathias, tu sais c'est qui, Pierre-Luc Dubois, 2.0? C'est Kotkaniemi.
Oh boy! Oh boy!
Mais tu sais que, malgré tout ce qu'on dit de Dubois, là, il y a eu des années de 60 points avant de se rendre où il s'est rendu aujourd'hui.
Ouais.
Là.
Ouais.
KK, c'est 42 points, je pense, sa grosse année. Puis tu sais, moi, j'ai prôné la patience dans son cas là, en début. Puis après sa première année, j'ai été encouragé. Mais là, il y a eu, en Caroline, il y a eu toutes les chances du monde et plus!
Ouais.
Et plus!
Ouais.
Et plus! Ça n'a rien donné.
Ben oui, parce qu'en Caroline, il y a une bonne équipe. Et de surcroît, n'ayant pas une grosse profondeur au centre, ça lui donnait l'occasion de jouer sur le top 6.
Ouais.
Puis il a joué comme un joueur de 3e, 4e trio, 3e trio et demi,
ouais.
Alors qu'il était un top 6. Tu sais, je regarde, tu me parlais de mentionner des noms. Mais pour le 2e trio, non. Mais tu sais, tu parlais de jeunes là, qui ont une carrière ordinaire à date, là. Cole Sillinger à Columbus.
Ouais.
C'est un joueur de centre. Il a 29 points à 54 matchs.
Ils vont le garder, lui. Il est blessé, d'ailleurs. Là,
ouais, hein? Ils vont le garder. Mais, tu sais, c'en est quand même un qui sous-performe là, depuis sa saison recrue.
Écoute, moi, j'aime ça. Tu sais comment j'aime les questions, Pag?
Oui.
J'en ai une dernière. Disons que la Caroline veut se débarrasser de Kotkaniemi. Il est à quoi, là?
4,8
millions.
Ouais.
Puis ils prennent maillot pour Kotkaniemi.
Ouais.
Le fais-tu?
Parce que Kotkaniemi, c'est un bottom six. Tu ne payes pas un gars de bottom six, 4,8 millions, surtout qu'il n'est pas bon. Il n'est surtout pas bon.
Bon.
Il n'est pas bon, Kotkaniemi. Tu dis, ça fait 3 fois, je le dis.
Oui. Pensez-vous que Vancouver va jeter la serviette dans le cas d'Elias Pettersson?
Ça, il ne faut pas que tu touches ça. Là. Écoute, c'est non. Le bordel. Non. Puis tant mieux s'il relance sa carrière quelque part. Mais à 11, c'est 11 millions?
11 millions.
11 millions avec la saison qu'il y a en ce moment... Avec le jeu qu'il offre depuis que Miller est parti,
ouais.
Avec son jeu au tournoi des Quatre Nations.
Avec ce qu'on a vu en série l'an passé.
Écoute, c'est drapeau rouge pareil, là.
Ouais.
Fait que moi, je touche pas.
Moi, j'en veux pas. J'en veux pas 11 millions.
Bon.
En fait, j'en ai jamais vraiment voulu de Elias Pettersson. Mais 11 millions, j'en veux encore moins.
Bon. Écoute, Pac, tu cherches souvent des titres. Moi, je pense que Granlund, 2 ans avec le Canadien, la solution. Au centre du 2e trio, tu rapetisseras ça, là, mais là, tu as ton titre pour...
Mais on est au premier bloc, je pense que vous allez dire encore plus d'affaires réelles fun dans l'épisode.
C'est ah, il va en avoir d'autres, ouais. Mais là, si tu veux un titre, je pense que Granlund, c'est pas pire.
OK.
Processus. You win! Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.
Simon, pour le 2e bloc, je veux d'abord qu'on commente un échange important, puis ensuite... J'aimerais ça qu'on explique la différence entre la date limite des échanges et les échanges l'été, parce que c'est deux affaires bien différentes.
Ah oui.
Mais commençons avec Seth Jones. Échangé aux Panthers de la Floride pour le jeune gardien Spencer Knight. Il y a un choix de premier tour en 2026 ou 2027. Je vais préciser que l'option, c'est que si les Panthers décidaient d'utiliser leur choix de premier tour de 2026 et l'échanger, mais les Blackhawks auraient l'option de prendre celui de 2027. Fait que donc, les Panthers ont ce luxe-là de pouvoir l'échanger ou pas.
Ben, premièrement, les Panthers prennent quand même un risque là, en échangeant un deuxième gardien de but qui a bien de l'allure hein, en Spencer Knight. Mais je crois que ce que ça m'a démontré, c'est que lorsque Seth Jones a mentionné qu'il voulait être échangé, on savait que ça arriverait, là. La question était de savoir... Est-ce que Seth Jones valait quelque chose ou non? Les gars de 29 ans, ou même 30 ans dans son cas, il vient d'avoir, en fait, même pas.
Il y a 30, là. Il est en octobre.
C'est un late, il y a 30 ans. Les gars de 30 ans, à qui il reste 50 contrats à 9,5 millions et qui performent comme tu, comme ça, en général, ça vaut rien.
Ouais.
Puis c'est le genre de contrat que Tu vas payer pour t'en
Là, Chicago, évidemment, prend 25 % donc ça revient à peu près à 7 millions.
Ce qui n'est pas beaucoup, 25 % 2,5 millions, c'est rien là, pour Chicago.
Donc, c'est un défenseur qui a encore une très bonne réputation.
Oui, bien, c'est ce que ça me dit. Parce que je t'en avais glissé un mot, même il y a deux semaines, je t'avais dit, Seth Jones, irais-tu le chercher, tu sais? Puis tu m'avais dit non.
Peut-être pas dans le contexte du Canadien.
C'est ça, dans le contexte du Canadien, c'est ça. Alors, Seth Jones, je pense qu'il cadrait seulement avec certaines équipes.
Avec sa clause de non-échange aussi, là?
Oui.
N'oublie pas.
Ça aurait pu être une équipe qui voulait atteindre le plancher salarial, exemple à l'époque, des Coyotes de l'Arizona.
Mais il aurait dit non.
Toujours, peut-être, mais admettons qu'il dit oui.
Non, il voulait aller qu'une équipe gagnante.
Bon, OK.
Fait que ça, c'est
alors là, on oublie les équipes qui voulaient atteindre le plancher.
Oui.
Là, ça prenait une équipe qui aspire à la coupe, mais qui a encore de la marge de manœuvre sous le plafond.
Oui.
Fait que là, ça limitait beaucoup les possibilités. Fait que tu te dis, comment ça se fait que Seth Jones a quand même donné, bon, un choix, on peut présumer, de faire une première ronde, mais surtout, le gardien de but, Spencer Knight. Spencer Knight, là, il a rétabli sa valeur cette année.
Oui, il l'a rétabli.
OK,
ouais.
Il n'est pas l'espoir qu'il était lors de son année de repêchage. Il y a eu des problèmes après ça, personnel. Mais il s'est quand même rétabli cette année. Et d'après moi, Chicago, qui a fait un petit peu de copier-coller de San Jose, qui était allé chercher Askarov,
ouais.
Ça nous a fait Chicago a fait la même chose en allant chercher son gardien d'avenir qu'il n'avait pas nécessairement. Ouais. Alors, Jones, l'idée, c'est ça, c'est que je pense que si tu avais demandé aux 31 équipes, admettons qu'il aurait voulu aller aux 31 équipes, il vaut quoi, Jones? Puis je pense que tu aurais eu peut-être une bonne vingtaine de réponses différentes.
Et quand tu parlais du plafond salarial, oublie pas quelque chose. PAG,
j'écoute.
S'il n'y a pas de tournoi des Quatre Nations, Seth Jones n'est probablement pas avec les Panthers de la Floride.
Ah! Éclaire-nous.
Parce Mathieu Tkachuk, blessé, ne reviendra pas avant les séries.
Ah!
Fait que tu, jamais...
La liste est blessée à long terme.
Jamais tu c'est peux vrai. Entrer le salaire de Seth c'est Jones. Vrai. Et c'est là, vrai. À fin de l'année, tu as Ekblad, joueur autonome sans compensation.
Ouais.
Fait que là, tu trouves un remplaçant pour Ekblad.
Hum.
Mais ça ne règle pas ton... Et là,
et Ekblad est joueur autonome à la fin de l'année.
C'est ça.
Donc, c'est ça.
Oui. Ouais. Et là, évidemment, tu mets tes œufs dans le même panier. Parce que non seulement tu perds un solide gardien numéro 2...
Ouais.
Mais Bobrovsky va lui rester une année de contrat, il y a 35 ans.
Mm-hmm.
Fait que là, tu te dis, moi, je suis gourmand. J'ai été en finale, j'ai gagné la coupe. Je vais gagner la coupe encore cette année.
Ah oui.
Puis on s'arrangera avec nos troupes dans un an.
C'est ça qui arrive. Quand tu es proche de la coupe comme ils sont, ben, en fait, ils l'ont gagné, mais je veux dire, quand tu es encore près de la coupe, ça n'a aucune importance l'avenir. Tu peux pas voir.
Non.
Écoute. Combien de fois dans ta vie de directeur gérant, d'entraîneur, de propriétaire, tu vas avoir la chance de gagner deux Coupes Stanley de suite?
Écoute, j'ai jamais levé ça, une Coupe Stanley, mais j'imagine que quand tu y touches, tu veux y retoucher.
C'est ça. Maintenant, qui est devenu Seth Jones?
Ah.
Ben moi, Seth Jones, là, j'ai jamais capoté dessus. J'ai toujours trouvé qu'il avait un physique imposant, qui c'était un bon... C'était un gars qui savait ce qu'il faisait à ligne bleue, là, pour simplifier l'explication. Mais le petit facteur « wow » que j'aime chez un joueur, il ne l'a pas. Il ne l'a jamais eu. C'est pas vraiment par des grosses mises en échec, c'est pas vraiment par des montées à l'emporte-pièce, c'est pas vraiment par des passes savantes. C'était juste un genre de... Tu sais, c'est le genre de gars que tu aimes avoir dans ta brigade défensive, mais c'est pas le gars dans ta tête qui va être le défenseur offensif époustouflant. Fait que tu vas le prendre un peu comme complément.
Ekblad ou Seth Jones?
Je prends Jones.
Bon, tu vois, déjà, là, ils ont...
Parce qu'Ekblad, je l'aime encore moins.
OK.
Ouais.
Tu vois?
Mais faut que tu équilibres ça, tu sais. Faut que tu équilibres ça. Alors, tu sais, c'est un peu comme des fois, tu sais, on parle de Ranbacker.
Ouais.
Ranbacker, on se dit, OK, ça sera pas Cale Makar, Quinn Hughes avec des 80-90 points. Alors, il va avoir une mission, il va être très important. Mais c'est le fun d'avoir Lane Hutson pour faire les jeux plus spectaculaires.
Ouais. Là, tu entres, Seth Jones, pour la fin de l'année, avec première paire Ekblad Forsling, Mikola Seth Jones, tu as tout un top 4.
Voilà. Bon, Jones à Chicago, qu'est-ce qu'il apportait? Bien, évidemment, c'est une erreur que Chicago avait faite parce que c'était la fin de règne de Stan Bowman.
Oui.
Qui, lui, là, il voulait il avait commencé à couler, mais là, il s'était dit, ah, ben on a encore Kane, Taves.
Je vais
retoucher à la coupe. C'est impossible, là, c'est un rêve.
Taves venait de manquer la saison.
Oui, c'est un rêve complètement débile de sa part. Alors, il va chercher Seth Jones. Et là, un an après, il est congédié et Davidson arrive. Puis là, Davidson est pris avec ça.
Ben oui.
Et c'était l'anomalie dans la destruction blackhawksienne.
Ben, c'est parce qu'il probablement qu'il n'y avait pas moyen de l'échanger.
Ben non.
Et là, tu rases tout. Il pris avec plein de jeunes, puis des vétérans fin de carrière.
Des vétérans fin de carrière, puis t'as
Jones à 29 ans qui est surpayé, tu sais, ouais.
Fait que dans le diagramme de Venn, là, pour ceux qui se rappellent de ça, ben t'as des joueurs d'un bord, t'as des joueurs de l'autre, il y en a qui se recouvrent au milieu, mais t'as Seth Jones tout seul.
Ouais. Il servait à rien.
Il était une anomalie.
Ouais.
Alors oui, ça prend des bons vétérans à la défense. Oui, mais c'est parce que il servait à rien.
Puis il était trop payé pour un bon. Les bons vétérans, là, faut pas que tu payes ça 9 millions, un bon vétéran, là.
Non. Puis là, est-ce que Seth Jones aurait été encore bon lorsque les Blackhawks deviendront peut-être bons?
Ça, c'est dans 4-5 ans.
C'est dans 4-5 ans.
Il y aurait eu 35 ans.
Alors, on oublie ça. Je pense qu'ils ont fait la. Mais surtout, ils sont allés chercher leur gardien d'avenir. C'est ça qui me fait capoter. Moi, quand j'ai vu ça il y a deux semaines, je le répète, j'ai dit, Chicago, vas-tu être obligé de donner quelque chose pour se débarrasser de ce contrat-là?
Il a besoin d'être bon parce que Chicago, là, il va se faire bombarder, là, il va se faire poivrer. Là.
Oui, surtout que là, Knight étant un gardien de but de la Ligue nationale, là, il n'est pas question, comme Askarov, de l'envoyer aux mineurs. Knight, il va jouer à Chicago.
Oh, oui.
Alors, il va probablement partager le filet avec Soderblom puis Marazek. Je ne sais pas comment ils vont organiser ça.
Pour l'instant, Marazek, là, mais j'imagine qu'on va échanger Marazek à date limite.
Ah, mais ils deviennent tous autonomes, anyway. Ouais. Là. Alors, tu sais, Chicago... Pour de leur côté, ben là, où est-ce que ça s'en va? Ben ça s'en va que là, ils veulent vraiment finir dernier. Je ne sais pas si la différence de cette joint. Là, ils ont gagné hier. Ils ont repris 4 points d'avance sur les Sharks. Est-ce que la perte de Seth Jones va leur faire perdre les 4 points d'avance qu'ils ont? Je pense pas. Je ne sais pas.
Mais tu vois le retard qu'ils avaient quand on compare souvent avec Sanosé.
Oui.
Sanosé venait d'aller chercher Askarov. Et Blackhawks n'avaient pas encore leur Askarov.
Et là, ils l'ont.
Ouais.
Bon. Est-ce que les Blackhawks ont leur Sam Dickinson? On ne sait pas. À l'attaque, bon, ils ont un Bédard, mais on ne sait pas pour les autres.
Écoute, c'est sûr que la loterie va être très intéressante cette année.
Oui, parce que là, c'est-tu Schaefer ou c'est-tu deuxième choix? T'sais, si Chicago a le premier choix, ils vont chercher Schaefer. Là, ils ont leur défenseur numéro 1, ils ont leur gardien puis ils ont le Bédard.
L'équipe. Ouais. Qui gagne la loterie cette année entre Chicago et San Jose, là, ça fait une énorme différence.
Si c'est un des deux, évidemment.
Ouais.
Mais ça fait une énorme différence parce que le deuxième choix, là, il devient plus problématique. Je ne te dis pas que Michael Mizza, il n'est pas bon. Mais Schaefer est vraiment... L'impact que Schaefer va avoir sur une de ces deux équipes-là va être incroyable.
Là, je ne sais pas si tu sais par cœur. Est-ce que Chicago avait gagné la loterie pour Bédard?
Oui.
Donc, s'il gagne la loterie cette année...
Pas de McKenna, pas de Dupont. 2026-2027. Fini.
Non, c'est pas une affaire des fous qui regagnent la loterie.
Non.
Tu peux pas gagner la loterie.
C'est deux fois en cinq ans.
Et l'an dernier,
Chicago n'a pas gagné. San Jose n'a pas gagné la loterie.
Qui a gagné la loterie?
Personne. C'est San Jose, mais San Jose était déjà premier.
Donc, si Chicago finit au dernier rang du classement général, ça compte pas.
Ça compte pas, même s'il gagne.
Donc, c'est une distinction.
Mais s'il finit deuxième et qu'il gagne.
OK, il monte. C'est si tu montes au premier rang.
Si tu montes.
Donc.
Ou au deuxième rang. Si tu montes au deuxième rang. Si, mettons.
Ouais.
Quatrième, puis tu montes deuxième.
C'est ça.
Mais le Canadien en 2022...
Et Chicago avec Bédard était monté.
Le Canadien en 2022 n'a pas monté.
OK. Donc, il pourrait... Donc, Bédard, eux, ils ont monté pour aller chercher Bédard?
Alors, ça fait une loterie de gagner.
Fait que s'ils la gagnent, puis ils finissent avant-dernier, c'est fini pour Dupont et pour... Ouais.
Ah, c'est fini avant. Tandis que San Jose, eux autres, pourraient finir dernier, aller chercher Matthew Schaefer, et encore pouvoir gagner
deux
Dupont
fois.
Et McKenna.
Mais c'est ça, s'ils finissent, mais ils vont finir probablement dernier. Mais probablement que Chicago aussi veut essayer de finir dernier.
Ben, hey, là, écoute,
mais c'est toute une différence. Si tu finis dernier, tu gagnes la loterie, tu as encore une chance pour les deux prochains repêchages avec des joueurs.
Ou au moins un des deux prochains.
Oui, avec des joueurs d'exception.
Oui. Parce que là, ça n'a rien enlevé à Schaefer. Au même âge, là, on est loin, on a quand même 3 ans de différence. Là. Au même âge, je préfère Landon Dupont à Schaefer.
Et là, si t'es San Jose,
ouais.
Non, c'est quand même une petite question que elle vient d'émaner, là. Je sais que Schaefer est extraordinaire, là.
Oui.
Si t'es San Jose, tu finis dernier.
Hum?
et que Chicago finit avant-dernier. Non, on est rendu là, là.
Oui.
Est-ce que tu veux... Est-ce que tu souhaites que Chicago gagne la loterie pour les exclure des deux repêchages suivants? Est pas pire, quand même.
Très bonne question. Mettons, si c'est les Sharks, puis que probablement que les Sharks, l'année prochaine, ça va encore se promener dans ces eaux-là.
Ouais, là.
Ben, c'est sûr que si tu me donnes le choix
ouais.
entre gagner la loterie Schaefer puis la loterie McKenna ou Dupont...
Ouais. Parce que là, Chicago est écarté.
J'aime mieux gagner les loteries de McKenna Dupont.
Donc, tu veux quasiment... Toi, si t'es DG des Sharks, tu veux quasiment que Chicago gagne la loterie cette année?
En finissant avant-dernier?
Oui.
Ben non, mais si c'est ça le résultat, je perds pas le sommeil.
Mais Simon, toi...
Mais je veux quand même la gagner la loterie. Okay. Ouais. Parce qu'il n'est pas dit que les Sharks l'an prochain vont être derniers et vont avoir McKenna.
C'est sûr.
Mais les gars, vous ne voyez pas une amélioration de Smith, puis Celebrini, puis Askarov? Moi, je les trouve bons
dans le
futur.
C'est ça
que je vois. Je ne pense pas qu'ils soient aussi mauvais l'année prochaine.
Oui, mais la côte est longue à monter. Écoute, j'analysais tous les joueurs un par un. Là. Honnêtement, à part Celebrini puis Smith, puis Toffoli comme vétéran, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Eklund n'est pas pire, Zetterlo n'est pas pire. Le reste, il n'y a rien.
Schaefer, à la défense, peut-il avoir un impact à sa première année?
Non, mais il va avoir un... Ça va être une belle année d'apprentissage pour l'avenir.
Puis là, tu as Dickinson aussi qui va peut-être... Oui, tu montes tous les deux en même temps.
Ah, ouais, 18-19. Il y a Mokamadou Lin que je n'ai pas détesté. Mokamadou Lin, pour moi, c'est un défenseur numéro 4 ou 5.
OK.
Fait que, écoute, ils sont loin, les Sharks. Ils sont loin.
Ouais. Bon. Explique-nous donc, là.
D'ailleurs, on parlait de Schaefer tout à l'heure.
Ouais.
Dans les trois questions à la fin de l'épisode, il y a une très bonne question qui nous a été posée sur la valeur de Schaefer.
Parfait. Bon. Donc, restez en ligne. Ouais. Juste une petite récapitulation. Récapitulation. Pourquoi j'ai de la misère avec ce mot-là?
C'est difficile.
En tout cas. Ah oui, hein? Pag la trouve difficile. Tu ne peux pas faire le jeu de mots avec celle-là.
Non. Ah non.
Tu as la date limite des échanges et tu as les échanges l'été.
Ouais.
Puis souvent, quelqu'un qui suit un peu moins ça, qui n'est pas le cas évidemment de nos auditeurs, met tout ça dans le même bateau.
Mm-hmm.
Peux-tu nous rappeler un peu? C'est quoi les grandes distinctions entre ces deux périodes-là qui sont quand même bien distinctes?
Ben moi, je vais dire ce qui vient à l'idée, puis tu compléteras.
Ouais.
Bien évidemment que la date limite des échanges, en général, ce sont des joueurs de location, donc des joueurs dont les contrats expirent à la fin de l'année, en général.
Ou avec une année de contrat.
Ou avec une année de contrat qui fait en sorte que tu les as pour deux printemps
ouais.
au lieu de un. Tandis que, et il y a également le plafond salarial qui est limité.
Oui.
Rendu... à l'été, il y a beaucoup de contrats qui expirent. Et en général, les équipes, le 1er juillet, ont une marge de manœuvre pour faire des transactions
ouais.
en sachant que après ça, ils ont juste à faire... Si elles vont chercher un joueur qui vaut beaucoup d'argent dans une transaction, elles ont juste à limiter leurs dépenses dans les joueurs autonomes. Mais en ce moment, tout le monde est pris à gorge.
Écoute, disons que deux équipes veulent faire un échange pour l'avenir. C'est pas impossible que ça arrive. Mais ce n'est pas le moment. Tu sais, disons que le Canadien voulait échanger son choix de premier tour et Logan Mailloux pour Dylan Cousins. Ça peut arriver, mais généralement, on va attendre à l'été.
Ouais.
La date limite des échanges, c'est des échanges pour permettre au club aspirant d'aller chercher du renfort auprès de clubs qui sont éliminés ou proches d'être éliminés. D'où la notion de vendeur et d'acheteur. Fait que la date limite des échanges, c'est ça. Les échanges à plus long terme, on attend l'été, on attend de voir, justement, on a libéré de la masse salariale.
Tes besoins sont mieux définis.
Tes besoins sont mieux définis. Ouais. Souvent, tu as eu des changements de directeurs généraux ou d'entraîneurs.
Ouais.
Tu as eu le temps d'avoir le recul, justement. Fait que pour moi, c'est deux perspectives vraiment différentes.
À chaque été, le Canadien en fait un, puis souvent, à un moment où on ne s'entend pas.
Oui.
Souviens-toi Mike Madison, souviens-toi Patrick Laine. Tu sais, c'est souvent des moments où on...
Subban Weber.
Ça,
c'est le type d'échange qui arrive plus rarement à une date limite des transactions.
Oui.
C'est pas impossible,
ouais.
mais moins souvent.
D'ailleurs, la date limite des transactions approche, et la semaine prochaine, dans l'épisode, on va récapituler.
Oh, hey! aussi.
De fond en comble, la date, ce qui se sera passé cette semaine. Là, on a parlé de Seth Jones. Un petit échange, Gustav Nyquist, qui a été. Gustav Nyquist,
ouais.
Tu as été échangé à Minnesota pour un choix de deuxième. Belle petite acquisition, je pense, complémentaire, mais ça, c'est vraiment le genre d'échange qu'il y a durant cette semaine-là. Et ça mène à ça donne un peu une idée de la valeur de ce qui s'en vient. Nyquist, Jake Evans, deuxième ronde.
Ouais. Ouais. On vous dira pas où. Puis il y a toujours, on sait jamais, il peut y avoir des changements d'horaire, mais en principe, on sort du studio la semaine prochaine. Fait qu'on va vous analyser ça à l'extérieur avec une nouvelle gang. Disons ça comme ça. Gang de jeunes. C'est tout.
Si on résume le bloc, il faut capituler sur récapituler.
Fallait qu'il en sorte une.
Fallait qu'il en sorte une. Free bag.
Trust the process.
Trust the process.
Mon cher Simon, c'est le moment de parler de ton équipe de la semaine.
Mm-hmm.
Côté présent, un peu de passé, mais beaucoup de futur. T'es rendu où?
Je suis rendu aux Flames de Calgary.
Très intéressant.
Flames de Calgary qui bataille pour une place en série en ce moment. Je ne sais pas s'ils vont les faire ou non, mais on le sait, ça a été répété plusieurs fois, ils vont probablement perdre leur choix de première ronde aux mains du CH cette année.
Ben, ils vont le perdre, oui.
Oui, c'est ça. Ils vont le perdre, carrément. Mais ils ont quand même deux choix de première ronde en banque, ceux de New Jersey et de la Floride.
OK. Les choix de fin de premier tour.
Oui, et l'an prochain, ils en ont deux autres.
Ah oui?
Oui. Alors,
lequel?
Je pense que ils ont celui de Vegas.
Ah!
Et ils ont le leur.
Bon. Fait que
ils sont pas mal pris de
Craig Conroy, qui a succédé à notre ami Brad Treliving.
Oui.
Celui-là même qui a offert aux Canadiens, gracieusement, un choix de premier tour pour Sean Monahan. Celui qui a échangé Sam Bennett. Aux Panthers de la Floride pour un choix de deux, puis un choix de deux choix de deux, ou un choix de deux et un choix de trois, peu importe. Est parti à Toronto. Et Conroy a quand même réussi à
naviguer. Lui, ce qu'il fait,
naviguer.
C'est, tu sais, quand on parle de reset, là, de réinitialisation.
Reset on the fly, comme disait Marc Bergevin.
Oui, ben c'est pas mal ça.
Ouais.
Parce que si tu regardes eux autres, ils avaient déjà là, deux gros contrats à long terme, en fait trois.
Trois.
Mackenzie Weegar, Nazem Kadri et Jonathan Huberdeau qui sont signés pour encore 4, 5, 6 ans là, au total. Et là, on Sharon Govich aussi, 2030. Alors, ça fait quand même plusieurs gars, ça fait 4. Mais ils ont décidé de ne pas reconstruire. Alors, malgré le fait qu'ils aient 4 choix de première ronde dans les deux prochains repêchages, ça va être des choix quand même assez lointains. Et ça serait surprenant que Calgary plante l'année prochaine au point de pouvoir aller chercher un premier choix.
Mais ils n'avaient pas le choix. Même toi, tu n'aurais pas pu reconstruire là-bas.
C'était difficile parce que le contrat d'Huberdeau à 10,5 millions, je ne sais pas comment tu fais. Mais on en a remis. On est allé chercher Joel Farabee et Morgan Frost. Farabee qui était quand même sous contrat jusqu'en 2028. Donc, on allait quand même chercher un gars avec qui on se mariait pendant 4 ans.
Ouais.
Pour se débarrasser de Kuzmenko, mais Kuzmenko était agent libre à la fin de l'année.
Ouais.
Et Morgan Frost, lui, agent libre sans compensation dans 2 ans. Lui, il pourra peut-être, si on n'est pas satisfait, on peut le laisser aller.
Mais c'est logique dans le contexte où tu fais une réinitialisation, d'essayer de...
Ben, des joueurs un petit peu plus jeunes, sous contrat, pas trop cher.
Ouais.
Bon, Blake Coleman encore sous contrat à presque 5 millions de 3 ans. Mikael Backlund, encore 2 ans. Tu sais, tu regardes les jeunes, Matt Coronato, Connor Zary, il est bon, Connor Zary.
Là, ils sont allés chercher Parrick.
Oui, mais ça, je vais y venir tout à l'heure avec les joueurs que je ne joue pas. Mais là, je prends les joueurs actuels.
Oui, parfait.
Mais, tu sais, tu regardes ça, Coronato, Zary, c'est bien, mais...
C'est même pas du Caulfield, là.
Non, même pas.
Même pas, et loin, là.
Non, là, tu es vraiment dans ce que j'appelle des joueurs complémentaires. On n'est même plus des joueurs d'impact.
Ouais.
On n'est pas des joueurs de soutien non plus. On est dans la couche entre les deux.
Ouais.
Fait que là, je me dis, où est-ce que ça s'en va, cette équipe-là? Ça s'en va pas avec eux. Pas avec ce qu'ils ont. Je regarde Huberdeau, Kadri, Weegar, Coronato, Coleman, Zary, Sharon Govich, Backlund, Rasmus Anderson, par contre, qu'ils risquent de perdre.
Oui, je pense qu'ils veulent le garder.
Veulent le garder. Bien là, si t'es dans une réinitialisation...
Faut que tu le gardes.
T'as pas le choix, faut que tu le gardes. Mais là, le Calgary, là, il se dirige...
Le gardien, quand même, il est bien.
Dustin Wolf, bon jeune gardien.
Ouais.
Mais il se dirige, les Flames, vers le fameux milieu de peloton qui me fait donner.
Mais si je me fais l'avocat de la couronne ou de la défense, ne disons est-ce qu'on disait pas ça du Wild du Minnesota?
Oui.
Et des Capitals de Washington.
Oui, mais les Caps, c'est une autre histoire parce qu'ils avaient Ovechkin. Mais le Wild du Minnesota, oui, on disait ça. Mais le Wild du Minnesota avait quand même Kaprizov. Ouais. Calgary n'a pas de Kaprizov. Ouais. Et le Wild du Minnesota était hypothéqué depuis trois ans, je pense que c'est trois, par le fameux rachat de contrat de Parisier et Souter. Ouais, ouais. C'était 14 millions quelque chose d'argent jeté par les fenêtres.
Ils ont bien repêché. Boldy, là, ça fait tout un impact. Là.
Calgary, est-ce qu'ils ont un Boldy?
Et l'échange de Faber.
Est-ce qu'ils ont un Faber? Tu sais, Uyghur est bon, mais il a 31 ans. Ouais. Rasmus Anderson en a 28. Alors, tu sais, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait vraiment d'équivalent de ce côté-là à Calgary.
Écoute, s'ils ne font pas les séries cette année,
ouais.
Qu'est-ce qui nous permet de croire qu'ils peuvent faire les séries l'an prochain?
Ah, bonne question.
En quoi ils seraient meilleurs l'an
bonne
prochain?
Bonne question, t'sais? Parce que qui est-ce qui s'en vient? Bon, mettons, on regarde là les jeunes joueurs. OK? On va regarder un petit peu les jeunes joueurs qui peuvent s'en venir prochainement. Bon, tu sais, t'as Samuel Hanzek qui a été un premier choix, qui joue cette année.
C'est pas liable, je pense, excuse-moi l'expression, dans les rangs juniors. Il y a eu un bon camp d'entraînement, mais.
Ouais, mais lui, c'est-tu quoi? Il joue dans la Ligue américaine en ce moment. Il a quand même juste 20 ans, mais quand même, 18 points en 40 matchs. Tu sais, je pense que.
C'est l'an dernier dans les rangs juniors qui était moyen, là.
Oui. Puis ce qui n'est pas bon signe à 19. Ouais. Le plafond d'un gars comme Hanzek, c'est que là, le plafond pour moi, c'est Connor Zary. C'est correct, mais là, on est encore des joueurs complémentaires. Ouais. Fait que ça a l'air que Calgary, là, c'est un paquet de joueurs de milieu d'alignement, mais là, tu te dis, OK, qui va mener la charge? Huberdeau, à part une coupe de saison, je m'excuse, mais c'est pas un premier centre.
Non. Ben, il joue
tu connais ma définition.
Centre.
Non, mais.
Il joue à l'aile.
Ouais.
En plus.
Puis Kadri, c'est pas un premier centre. Ouais. Fait que tu sais, tu regardes ça, puis tu dis, ouais, OK. Tu sais, Sharon Gobitch, bon petit joueur, mais encore là.
Cette année, c'est moins bon, là.
C'est moins bon, mais encore là. Tu sais, c'est. Moi, là, je regarde Calgary, puis je me dis, là, c'est tellement terne comme alignement. Être fan là, de cette équipe-là, puis ils ont une nouvelle aréna qui va être construite, je me dirais, wow, hey, je vais dépenser des milliers de dollars en billets de saison, puis mon Dieu, que ça m'allume pas. Tu sais, c'est pas une mauvaise équipe. La preuve est bataille pour les séries. Mais ça m'allume tellement pas. Je te dirais que c'est une des équipes qui m'allume le moins dans la Ligue. C'est probablement dans mon top 5 d'équipes qui m'allume le moins. Parce que je vois pas d'avenir. Je vois pas de possibilité de couler à pic. Je vois pas une possibilité de faire des échanges ou de signer des joueurs qui vont les propulser au sommet.
Ouais.
Je vois rien. C'est rien. Pour moi, c'est le néant à Calgary.
C'est leur meilleur espoir.
Oui, mais Parrott, il a des croûtes à manger parce que défensivement, je sais qu'il fracasse des records, là, mais il y a vraiment des croûtes à manger, ce gars-là, défensivement.
Offensivement,
oui. Oui, il va falloir vraiment qu'il soit jumelé à quelqu'un, à un défenseur vraiment solide. Bon, Matté Grydin, qui joue pour les Cataractes de Shawinigan, bon joueur, choix de fin de première ronde. Mais encore là, on est dans le territoire des Connor Zary.
Ils ont-tu assez de place pour rêver au marché des joueurs autonomes?
Tu vois, encore là, le marché des joueurs autonomes, moi, je le trouve un peu surestimé. Tu sais, les gens souvent disent, oh, on va signer un gros agent libre. C'est qui un gros agent libre?
Non, je sais, mais là, en ce moment, les autres sont ils brûlent en enfer.
J'ai une question, par contre, pour toi.
Oh non.
Ben, c'est correct.
Oh, okay,
il a le droit à un ou deux.
OK, c'est bon.
Toi, t'es joueur autonome, là.
Oui.
Signes-tu à Calgary?
Ben, j'aime les chapeaux de cowboy, fait que peut-être, mais...
Ouais, mais il y en a à Dallas aussi.
Oui, c'est vrai.
Puis il fait plus chaud.
Moi, je pense qu'ils vont avoir quand même une grosse marge de manœuvre à la fin de la saison. Vite, j'additionne ça, là, puis on est peut-être l'an prochain à 55-60 millions, donc ils vont avoir un 30-35 millions. Mais pour aller signer qui?
Faut que tu surpayes.
Admettons Calgary dit, on va signer Mikael Granlund, 50-30 millions, mettons.
Il serait capable.
Oui. Ça donne quoi?
Mais ça, tu vois, ça, c'est le genre de ça, c'est le genre d'équipe qui peut contrecarrer ton plan.
Oui, de 2 ans.
Moi, je pense qu'il va avoir de 5 ans quelque part.
Oui. Il y a quelqu'un qui va y donner parce qu'il y a quelqu'un qui va se dire, ben, on est proche des séries, puis avec lui, on va peut-être faire les séries.
Puis les 3 dernières années, on s'en fout, on rachètera.
C'est vraiment hallucinant de voir des fois comment des équipes sont gérées, mais je comprends que Calgary est dans une position, comme tu as dit tout à l'heure, extrêmement difficile pour tout démolir. Mais, remarque bien, San Jose, il y en a qui disaient qu'avec Carlson, Meyer, Hertel, Couture, tous ces gars-là qui étaient signés à long terme, que c'était impossible de démolir, ils étaient pognés avec les contrats. Brent Burns.
Puis pour ils l'ont fait. pour en venir au premier bloc, là, est-ce que Huberdeau, ça pourrait être un Pierre-Luc Dubois?
Ben, c'est parce que Pierre-Luc Dubois avait 24, puis là, Huberdeau est rendu à 31.
Ouais. Pas là. Ouais.
Puis c'est pas un centre. Mm-hmm. C'est un ailier.
Non,
jamais joué au centre.
Non, mais je veux dire,
puis 32 de... l'année prochaine, Huberdeau. Ouais. Ouais.
Un projet de reconstruction de joueurs, là, je veux dire. Ouais.
À bientôt 32, non.
Écoute, je suis en 2031. C'est 6 ans après ça.
Combien par année, donc, encore?
10,5 pour 6 ans. Hey, c'est des salaires.
Ouais.
C'est des salaires de superstar, là,
ouais,
pour 6 ans. Alors, bon, tant
mieux. Remarque que je suis content pour lui.
Ben tant mieux pour lui. Ben... Nous autres, on est toujours contents quand les joueurs font de l'argent.
Puis les Québécois,
c'est,
en plus.
Alors, puis, tu sais, c'est tough jouer au hockey. Puis, on jamais, tu sais, souvent, on critique les joueurs, là, mais on le sait que c'est tough jouer au hockey. Puis, on ne les regarde pas de haut, là, parce que l'entonnoir, pour se rendre là, il est très difficile.
Puis, ben, écoute, c'est quand même des belles vies, là. Ouais, j'irais pas jusqu'à dire que c'est tough, mais c'est la loi du marché aussi.
Voilà.
Si tu remplis les arénas, puis que les gens sont prêts à payer pour ça, ben, tu mérites ton salaire, regarde. Un beau dire qui est surpayé.
Oui, il y en a qui disent des fois, pourquoi on ne baisse pas le prix des billets pour rendre ça plus accessible? Ben, mais là, le salaire va baisser.
Ouais.
Mais tu sais, c'est l'offre et la demande. Si les gens continuent à payer 300, 400, 500 piastres,
c'est le marché. 15 pour leur bière.
Fait que tout le monde, ben c'est ça. La preuve, c'est qu'il y a d'autres domaines où tu augmentes le prix du billet le moindrement, puis les gens disent non.
C'est ça.
Tu augmentes le prix du billet de cinéma d'une pièce et demie, puis le monde capote.
Ouais.
Bon. Fait que c'est l'offre et la demande. Fait que Calgary, c'est pour ça, vraiment, c'est ça. C'est no man's land. C'est probablement une équipe qui, une année où ça va bien, ils vont faire les séries. Une année où ça va mal, ils les feront pas. Dustin Wolf, quand même, un bon gardien de but. Ouais. C'est le genre de gars, peut-être, qui peut t'amener borderline. Mais à part Parek, tu vois, il n'y a pas... Il y a Andrew Bacha, mais il y a une chose, par exemple, que j'avais mentionné dans un podcast précédent. Calgary a fait un repêchage en 2024 qui ressemble étrangement au repêchage que les Hurricanes de la Caroline font depuis plusieurs années.
Oui, tu l'as déjà dit une couple de fois,
c'est
ça.
C'est-à-dire, les 5 joueurs qu'ils ont choisis, les 5 premiers choix qu'ils ont choisis, et Parek, Matté Grydin, Andrew Bacha, Jacob Battaglia et Henry Muse, ces 5 gars avec énormément de potentiel offensif, mais énormément de points d'interrogation dans d'autres aspects de leur jeu. On y est allé vraiment là, uniquement pour le talent. Ça, je suis curieux de voir comment ça va aboutir. Ça se peut que ça aboutisse à rien, mais j'aime la façon dont ils ont lancé les dards, parce que pour moi, le repêchage, c'est pas pour aller chercher des valeurs sûres de troisième trio, c'est fait pour essayer de trouver des superstars en devenir, même si ta moyenne au bâton est faible. Parce que, anyway, si tu vas chercher 2 joueurs par année dans un repêchage, c'est bien.
Ouais.
Fait que tant qu'à aller chercher 2 joueurs de troisième trio, ben, j'aime autant faire ce qu'ils ont fait. On va voir si c'était un accident de parcours ou si cette année, les recruteurs des Flames vont avoir la même mission.
Trust the process. Trust the process.
Bon, ben laissez la portion des questions. Et tu nous avais mis l'eau à la bouche avec Matthew Schaefer. Et la question nous provient de Gilbert Ouellet. Comment expliquer le fait qu'un joueur blessé depuis janvier, Matthew Schaefer, puisse être classé premier au repêchage? Est-ce que les autres prétendants déçoivent aux yeux des recruteurs? Car qui dit que Schaefer en santé ne serait pas tombé dans une léthargie et ainsi être relégué à un classement plus bas?
Oui. Bon, premièrement, l'hypothèse qu'il soit tombé en léthargie, bien, ça demeure une hypothèse pour laquelle on n'aura jamais la réponse. Est-ce que les autres ont déçu? Bien, je pense que James Higgins a certainement déçu. Ça a aidé Schaefer. Michael Misa va très bien. Mais surtout, c'est que je pense que les recruteurs en avaient assez vu sur Schaefer pour être capable de faire une projection assez dithyrambique de sa part. Et oui, on va prendre le risque qu'il tombe en léthargie parce que ce qu'on a vu est vraiment exceptionnel. Moi, j'aime mieux que ça soit comme ça que ce qu'on fait dans la NFL souvent. La saison de collégial de la NFL, de football finit au mois de janvier. Et là... Entre le mois de janvier et le mois d'avril, tout est fini.
Ouais.
L'évaluation des joueurs fluctue. Est-ce que c'est parce qu'on regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de tape, comme on dit, on a fait beaucoup de visionnement, ou est-ce que c'est parce que finalement, on ne savait pas trop, puis le vrai travail commence au mois de janvier? Mais là, au moins, le travail, ça prouve que le travail des recruteurs il est un petit peu plus coulé dans le béton. Moi, c'est ce que ça me dit de ce côté-là, mais l'hypothèse qu'il y a eu une léthargie, bien écoute, pour moi, c'est... De toute façon, pour moi, Schaefer, c'est le numéro 1 incontestable. Et je pense qu'il va être premier sur les 32 listes.
Et il n'a pas manqué non plus l'année, là. Il a été blessé au championnat mondial junior. Fait qu'il y a une demi-saison quand même.
Oui, il avait quand même manqué au début à cause du mononucléose. Donc, l'échantillon, il est petit. Mais tu sais, on se souvient que Galchenyuk a manqué une saison complète, il a été repêché troisième. Ouais. Morgan Riley a manqué presque une saison complète, il a été repêché cinquième.
Ouais. Alexandre Magny. Et là, en la lisant, je me dis, Simon, évidemment, c'est tout à ton honneur parce que c'est toi qui choisis les questions. Alors, tu n'as pas peur de te faire brasser et remettre en question. J'aimerais bien qu'on pose la question à Simon sur Connelly. Pourquoi s'il joue si bien, le gars a de loin le pire différentiel de son club à moins 12 et en seulement 17 parties, et que le pire après lui est à moins 4?
Bien, ça revient à ce que j'avais expliqué il y a quelques semaines. Quand un joueur m'éblouit offensivement, son jeu défensif, je m'en fous pas mal, premièrement. Mm. Alors, Trevor Connelly, moi, quand je l'analyse, j'analyse pas ses replis, j'analyse pas son jeu avec le bâton en zone adverse, j'analyse pas s'il couvre son joueur. Moi, je me dis, est-ce que les habiletés que j'ai vues l'an passé, c'est-à-dire faire des jeux à pleine vitesse, sont encore là? Oui, elles sont encore là. Bon, pour ce qui est du différentiel, ça, là, les plus puis les moins, je sais que là, il y a un écart, etc., etc. Je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que des fois, il manque son couvreur? Est-ce que des fois, dans sa zone, il n'est pas toujours là? Oui.
C'est pas grave, ça.
Mais ça, c'est pas grave. Parce qu'il est dans le collégial, il joue à Providence. Puis Providence, tu sais, oublie pas, là. Non, mais là, non, je réponds sérieusement. Providence, il n'y a rien là-dedans. Alors, Trevor Connelly est toujours obligé de transporter la rondelle, et transporter la rondelle, et transporter la rondelle. Alors, est-ce qu'un gars comme ça, on lui demande, faut lui demander en plus de couvrir, de back-checker, etc., etc., il est tout seul offensivement. OK, c'est une équipe, je sais, ils sont classés très, très élevés, là, mais c'est une équipe. Je les ai vus en personne, là, et avec Connelly qui n'est pas là, là, c'est une équipe dépourvue de talent offensif. D'ailleurs, quand ils sont allés chez Connelly, on était très surpris que Providence aille chercher un joueur de cette étoffe-là. Les analystes étaient surpris aux États-Unis. Moi, je pense que c'est peut-être à cause des incidents qu'il y a eu. Mais en fait, on était surpris que Providence... Parce que Providence, ce n'est pas une destination pour les joueurs offensifs.
Ouais.
Fait que peut-être que Connelly, d'après moi, il ne cadre pas bien là. Mais l'idée de faire les jeux à pleine vitesse comme il les faisait l'année passée, même s'il a été blessé et qu'on n'a pas un gros échantillon, je les ai tous vus, ses présences sur la glace cette année. La réponse est oui, il est si bon que ça. Bon.
C'est-tu le seul sur l'équipe qui est à moins 17 ou c'est comme généralisé?
Oui, c'est ça. Oh, il est à moins 12. Moins 12, moins 4.
Marc, on finit avec Marc. Je ne comprends pas pourquoi Snake capote autant sur Carter Bear, mais n'a jamais vraiment aimé Ryan Leonard. Pas si différent comme joueur, il me semble.
OK, je comprends le point de vue de Marc. Pas si différent. Des gars qui foncent au filet, des gars qui ont du chien et des gars qui produisent. La seule affaire, c'est que moi, Carter Bear, je trouve où il se démarque, c'est dans la finesse de son jeu. Alors que Ryan Leonard, pour employer une expression dans un vieux message publicitaire quand j'étais jeune, c'est « bing, bang, rentre dedans ».
Il est taillé à H.
Ouais. Donc, c'est quoi? « Bing, bang, rentre dedans, tant pis pour les prudents ».
Ah oui, hein?
C'était ça. Ah. C'était dans une pub.
T'as connu ça, toi, hein, Peg?
Non, il est trop jeune.
Moi non plus.
Alors, je pense que c'est un jouet. C'est une pub
trop
de
jeune,
jouet.
Moi aussi.
Moi, toi aussi. Fait que c'est ça. Alors, pour moi, Carter Bear, beaucoup plus de finesse. Maintenant, Ryan Leonard. Est-ce que les Caps vont être heureux de l'avoir dans leur équipe? C'est certain. Il est complètement sauté. Il s'en va sur la glace, lui, là, puis sa mission, là, c'est de démolir tout le monde. Alors oui, il va avoir son utilité. Pourquoi je l'ai jamais vraiment aimé? Vraiment aimé. Je l'aime pour ce qu'il est, mais oui, je sais que c'est important, ces genres de joueurs-là, mais moi, j'ai plus une tendance à aimer les joueurs de finesse.
Bon. Parfait. Ben écoute, ça conclut cet épisode 24. Simon, merci beaucoup.
C'est Pierre-Alexandre Girard.
Merci, alias Pag. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Salut, on se retrouve pour l'épisode supplémentaire Patreon.
Absolument.